avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 908 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les vins nature, l'appellation Pessac-Léognan dans le Bordelais, les salons professionnels dédiés au vin et le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio. Bonjour Hélène Pio, bonjour aussi à nos garçons, là, Fabien Humbert, Philippe Orbach, David Cobold et Pierre Guigui. Bonjour à tous.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio, excellent Hélène, retrouve Fabien Humbert, journaliste notamment à la RVF, pour nous parler de ce qu'on peut lire sur une étiquette et notamment des ingrédients. De quoi s'agit-il exactement, Fabien ?
Alors justement, il ne s'agit pas de grand-chose, parce que la transparence...
Donc aucun intérêt dans votre papier.
Je vais arrêter ma chronique tout de suite,
d'ailleurs. Sujet suivant.
C'est la pierre, c'est ça. Alors, la transparence dans le vin avance enfin, mais plutôt en chasse-neige que tout chousse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les boissons alcoolisées n'ont pas l'obligation d'informer les consommateurs quant à leur composition. En fait, au contraire de tous les autres aliments, de la boîte de petits pois carottes à la bouteille d'eau minérale. Donc si on prend une boîte de petits pois carottes, par exemple, sur l'étiquette, on nous informe qu'il y a des petits pois, des carottes.
Et des carottes.
C'est plutôt, je vois bien.
C'est passionnant aujourd'hui, là. C'est
plutôt rassurant, surtout.
Oui, oui.
Ouais. De l'eau,
on sent
du
que
sucre,
ça, l'agriculture n'était pas si loin.
Après, des arômes naturels, etc. Mieux, le taux d'énergie, c'est-à-dire les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, etc. Tout ça, c'est indiqué. Prenons maintenant une bouteille d'eau. Donc de 50 centilitres d'eau gazeuse, donc on nous apprend qu'il y a de l'eau, évidemment. Il y a une injonction de gaz carbonique, et elle dévoile aussi ses taux précis de magnésium, de sulfate et SO4, de potassium, de fluorure ou de silice. Mais dans le vin, nada. On sait juste qu'il y a de l'alcool et des sulfites. Alors, il y a une sorte d'exception culturelle qui a notamment pris fin en 2015, lorsque les lobbies anti-alcool et anti-obésité britanniques ont fait voter un rapport d'initiative au Parlement européen. Le but, c'était de faire apparaître le taux de calories, en fait. C'était pour lutter contre l'obésité plus qu'autre chose. Afin que les consommateurs soucieux de leur ligne renoncent à un verre de cognac, de vin ou de bière. Donc la Commission européenne...
Il ferait mieux de renoncer à un McDo, hein.
Oui.
Oui, ce serait plus efficace, effectivement.
Ou hamburger, vous voulez dire, David.
Oui, c'est ça.
Hamburger au sens large, quoi.
Donc, la Commission européenne a quand même dit aux différentes filières spiritueux, bière et vin, de se mettre d'accord entre eux, finalement. Ils appellent ça de l'autorégulation. Donc, après 4 ans de négociations byzantines, donc je vais vous passer les détails, pendant lesquels les filières bière et spiritueux sont arrivées à se mettre d'accord, la filière vin s'est mise d'accord, elle, en avril 2019. Pour informer les consommateurs de la valeur énergétique, les calories et la composition du vin. Sauf qu'il s'agit en fait d'un accord en trompe-l'œil, parce qu'il est tout sauf contraignant pour l'instant. C'est-à-dire que les producteurs de vin pourront décider s'ils souhaitent ou pas apporter ces informations à leurs clients. Et plutôt que de faire apparaître les calories ou les ingrédients sur les étiquettes, la filière recommande fortement de les dématérialiser à l'aide d'un QR code qui pourra être apposé sur chaque bouteille. Donc les consommateurs qui désireront avoir plus d'informations pourront aller flasher ces informations, mais comme c'est pas obligatoire, aussi bien, il y aura même pas de flash code.
Mais qu'est-ce qu'ils auraient à cacher, Fabien ? Parce que si on cache, hein ?
Alors en fait, les grosses discussions, c'est savoir si ce qui fait un vin, c'est-à-dire on ajoute plein de choses, ça va être des levures, ça va être... Bon, évidemment, il y a du raisin, je vous rassure, la plupart du temps.
Il y a un petit peu de raisin.
Mais bon, il peut y avoir plein d'additifs. Donc, par exemple, il y a plus de 300 types de levures, des gaz comme l'azote, l'anhydride carbonique et l'argon qui servent à créer une atmosphère inerte et à manipuler le mou à l'abri de l'air, le phosphate d'ammonique, le chlorhydrate de thiamine. Bon, ouais, je vous passe la liste. Ça fait peur comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on utilise pour que le vin soit stabilisé, qu'il n'y ait pas de choses.
Et puis les doses, David, on peut préciser, c'est quand même pas ce sont des micro-doses, quoi. Hein, c'est...
Oui, oui, et puis c'est pas dangereux pour la santé, c'est surtout
c'est
ça.
C'est surtout ça, oui.
Est-ce qu'on met toute la liste et à ce moment-là, c'est pas une étiquette qu'il faut avoir, c'est un bouquin.
Ah ouais, c'est un dictionnaire, quoi.
D'où le QR code, parce qu'on peut tout mettre dedans. Alors après, c'est vrai que ces techniques peuvent être dénaturantes et changer le goût et faire en sorte que le terroir, finalement, soit complètement gommé. Donc c'est pour ça que les tenants de la biodynamie vont dire, nous on veut que tout ce qui change finalement le vin, même si ça ne se retrouve pas dans la bouteille, soit indiqué.
Tout ce qui n'est pas naturellement produit, vous voulez dire ?
C'est ça, tout ce qui peut changer le goût. Alors par exemple, si des levures qui sont exogènes, qui sont achetées dans le commerce, et pas des levures qui ont poussé dans la la cave, ils vont vouloir le mettre, par exemple. Hein.
Oui, mais enfin, toutes les levures ont la même origine. Simplement, il y a des levures sélectionnées, des levures pas sélectionnées. Souvent, c'est les mêmes souches, d'ailleurs.
Mais il y en a qui sont commerciales, d'autres pas. Bon, voilà. Après, il y a les tenants, évidemment, des vins nature qui vont dire qu'il faut absolument tout mettre, puisque, selon ce qu'ils disent, ne mettre rien dans le vin, notamment le taux de pesticides et le taux de soufre. Alors, il y a une application qui vient de paraître, et c'est Pierre Guigui qui m'en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Dans ma bouteille. Et on peut déjà voir le taux de
soufre. Ah oui, c'est un yucca du vin.
Voilà, c'est le yucca du vin. Alors, pour l'instant, il y a quelques dizaines de viticulteurs qui sont adhérents, et je ne sais pas s'il y a des abonnés, mais
il y a 220, je crois, sur le site.
Il y a 220, quoi. Ouais. Mais ça, on peut en parler, parce que d'abord, c'est un très bon sujet, Fabien, comme d'habitude, mais Philippe Forbach, il y a des choses à cacher, c'est pas bon, le vin, il y a des saloperies, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que c'est vrai, quand on cache trop, on se dit, c'est suspect, presque.
Il n'y a pas de choses à cacher en particulier, si ce n'est que pour faire du vin, la plupart des gens pensent que c'est du raisin fermenté et puis que...
Et voilà.
C'est tout. Sauf qu'effectivement, de tout temps, on a trouvé des possibilités ou des astuces pour pouvoir techniquement...
Améliorer la nature parfois.
Oui, pas la dompter, mais en tout cas l'accompagner ou faire en sorte que le vin se conserve, plein d'éléments qui font qu'on a utilisé depuis très longtemps, ce qu'on appelle des intrants. Et effectivement, ces intrants, ils peuvent rentrer en quantité très faible ou plus importante. Et jusqu'à aujourd'hui, les viticulteurs ont toujours réussi, parce que c'est un sujet d'actualité. Moi, qui suis membre de l'INAO depuis très longtemps, c'est un sujet qui est souvent venu sur la table et pour lequel les viticulteurs, effectivement, étaient assez réticents, en disant ça va effrayer les gens de penser que si, que là, etc.
Toujours c'est que l'INAO énoncé par Fabien, c'est pas très sexy.
Exactement. Et voilà. Donc, ça casse un peu la magie du produit.
Ouais. Pierre, vous en pensez quoi, vous, en tant que spécialiste des vins bio, nature et avec une très jolie coupe de cheveux?
Merci. J'en parlerai à mon coiffeur.
Très nature.
Très nature. Non, je pense que...
On va mettre un QR code sur la tête.
Je pense que le consommateur cherche la transparence. De plus en plus, les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Ce qui est un peu compliqué avec le vin, c'est que, par exemple, les levures, c'est pas un produit chimique de synthèse, c'est naturel.
Oui.
Que c'est pas repérable à l'analyse, qu'elles soient indigènes ou exogènes, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, de toute façon, on peut pas les repérer. Quand vous mettez les copeaux de bois et que vous les enlevez, ils ne sont plus dans le vin. Donc, du coup, on ne peut pas mettre qu'on a mis des copeaux de vin. Il n'y a pas des copeaux de bois, puisqu'il n'y a pas de résidus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des produits.
C'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué. Il y a des produits qui ne laissent pas de résidus. Mmh. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut les mettre ou pas les mettre?
David Cobol, vous en pensez quoi?
Moi, je dis que si on pousse au bout, là, on arrive à une situation absurde, parce qu'il faut mettre, tout. S'il faut mettre tout, à ce moment-là, les vins nature doivent mettre le taux de Brettanomyces, le taux d'histamine. Ça aussi, ça peut être des choses désagréables et dangereux. C'est naturel, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon.
Oui, c'est ça. Ça peut même être dangereux.
Oui, oui. On a des choses qui sont naturelles et bonnes, et des choses qui sont naturelles et pas bonnes du tout. Tous les poisons sont dans la nature.
On va revenir sur ce sujet-là. En tout cas, Fabien, c'est excellent papier, puis belle comparaison. Une vidéo Studio Radio retrouve Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française, pour une balade plus tranquille en terre bordelaise, du côté de Pessac-Léognan.
Oui, c'est une balade tranquille parce que c'est une balade ancienne. Hein, c'est de le considérer le secteur des grappes, donc juste au sud de Bordeaux et légèrement à l'ouest également de la communauté de Bordeaux d'aujourd'hui, qui a gagné quand même pas mal d'urbanisation sur ce terroir historique, eh bien existe effectivement cette appellation Pessac-Léognan, qui est considérée un peu comme la partie la plus zuppée en termes de notoriété, au Brion par
c'est
exemple.
C'est chic, c'est les graphes chics.
Voilà, Malartic, la graphe.
Zuppée parce que c'est un zup.
C'est un zup de luxe, exactement. De ce secteur, donc grave, j'en ai déjà parlé, mais c'est la seule appellation à porter le nom de sa terre. Donc ça, c'est une symbolique très forte. On appelle des graves garonnaises, des graves qui viennent des Pyrénées, avec des alluvions, mais en même temps, ces petits cailloux mélangés avec... Il y a des quartz, il y a des jaspes, il y a plein de types de pierres particulières mélangées avec de la terre. Et c'est assez drainant, ça permet effectivement de pouvoir... avoir des sols qui irriguent bien naturellement et de pouvoir donner naissance à des grands vins d'une façon générale. Il suffit qu'il y ait en plus des croupes, ce qui arrive parfois dans ces coins-là,
Pour
qu'effectivement l'exposition soit bonne et permette de produire des très jolis vins. C'est dans ce secteur-là que dès le XVIIIe siècle, on a fait apparaître, déjà on parlait le vieux monde, l'ancien monde, etc. Et il y avait déjà des notions.
Au XVIIIe siècle.
Hein. Déjà, et on appelait ça le New French Claret. Et effectivement, c'était ces vins de la région de Grave et de Pessac-Léognan en particulier, avec comme fer de lance de l'époque un vin qui est toujours très d'actualité aujourd'hui, le fameux château Aubryon.
O'Brien. O'Brien. En anglais, qui ça donne quoi, O'Brien, Hélène?
O'Brien. Hi, Brian.
Et vous, David Cobol, en français, ça donne quoi?
Moi, je dis O'Brien, mais effectivement, la première mention en Angleterre, c'était en 1660 par Samuel Pepys, qui était un blogueur de l'époque. Le blog n'existait pas, mais il faisait un pamphlet hebdomadaire.
C'était
tout à fait pareil. Exactement. Il disait, j'ai bu le vin le plus singulier et différent de ma vie. Il s'appelle O'Brien.
O'Brien, Philippe O'Brien. Philippe O'Brien.
Dans ce secteur-là, il y a plusieurs éléments climatologiques, notamment qui interviennent pour avoir une jolie maturité des raisins, notamment l'influence de la forêt landaise qui coupe un peu les arrivées froides de l'océan. Le côté tempéré également de la Garonne qui permet effectivement d'éviter les gelées. Ce sont des conditions extrêmement intéressantes pour pouvoir produire effectivement des beaux vins et d'éviter les gels qui sont quand même assez redoutés, bien entendu, par les producteurs. On y produit donc à la fois des rouges et des blancs. Et c'est singulier parce que Bordeaux, il y a souvent l'un ou l'autre. Et finalement, il y a des grands blancs et des grands rouges dans cette appellation. Les rouges sont élaborés à partir, bien sûr, des cabernets traditionnels, le duo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et le Merlot, qui a joué un rôle important ces dernières années, qui diminue un peu parce qu'il a tendance à, des fois, donner des surmaturités aujourd'hui trop importantes, qui donnent des degrés un peu hauts. Un cépage qu'on va finir par retrouver un peu plus, même s'il avait un peu disparu, qui est le Malbec, ou le Côte. Voire éventuellement le petit Verdot, qu'on voit aussi réapparaître un peu, difficile à mener jusqu'à sa maturité finale, mais intéressant. Et puis également, pourquoi pas, la Carmenère, que nos amis chiliens adorent aujourd'hui, mais qui effectivement est toujours dans le décret d'appellation. Ça donne des rouges qui sont souvent intéressants parce que le fruité remarquable et le côté aérien des graves rouges permet de les boire finalement assez jeunes. Je ne parle pas des grands crus classiques qui demandent un peu plus de temps, mais ça se conserve aussi très bien.
Très longtemps. Quelques vignerons blancs sont tous bien là.
Oui, rapidement.
Les 56, 58,
il y a de très très jolis blancs. Sauvignon bien sûr, mais surtout le Sémillon qui va donner de la densité au vin, agrémenté de la muscadelle pour le côté aromatique. Alors des vignerons, bon, j'ai cité déjà quelques-uns, mais moi j'adore dans les blancs notamment Domaine de Chevalier qui est vraiment remarquable. Dans les rouges, j'ai un petit coup de cœur également pour Malartic La Gravière. Je trouve que c'est vraiment un très joli, un bel équilibre.
Et un dernier coup de cœur, Philippe.
Qualité-prix. Et dans le vin beaucoup moins connu, beaucoup moins cher, Château de France, Château de Chantegris par exemple, et aussi le Château
de Chantegris. Moi je vais mettre une pièce sur Aubailly.
Très bien, merci beaucoup Philippe. Joli voyage bordelais. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. En ce moment, c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Durand-Vielle et David Cobold. On espère que vous y connaissez un peu en écoutant quand même Invino. Hein.
Oui, depuis quasiment 900 émissions. Quoi.
C'est ça. La question de la semaine dernière était « Quel est le métier d'Olivier Collard ?» Réponse A, oncologue. Réponse B, directeur général des champagnes Collard-Picard. Ou réponse C, sommelier. La bonne réponse était la B, directeur général de champagne Collard-Picard.
Cette semaine, Hélène.
Cette semaine, pour quelle revue Fabien Invert est-il journaliste ? Réponse A, la revue du Pain de France. Réponse B, la revue du Bain de France. Ou la réponse C, la revue du Vin de France. C'est très compliqué là aussi. Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien Durand-Vielle et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Je pense à une pensée pour Angéline et Charlotte qui prépare l'émission, ils doivent bien s'éclater avec ces Vino Quiz. Alors, David Cobold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, on parle des salons professionnels aujourd'hui, c'est ça David ?
Les salons professionnels des vins, et parfois aussi des spiritueux. Hein. Je parle bien des salons professionnels, donc pas le salon des vignerons indépendants, qui ont une toute autre vocation, c'est-à-dire de vendre du vin directement du producteur au consommateur dans le marché de référence, soit local, soit national. Là, je parle des salons professionnels, puisqu'il n'y a pas très longtemps, entre le 10 et le 12 février, a eu lieu un double salon, un salon récemment jumelé, Wine Paris, et pas Wine Paris, comme on dit, Wine Paris. Hein.
Paris.
Pourquoi pas Vin Paris, d'ailleurs. On peut se poser la question. Et Vinexpo, parce que Vinexpo, maintenant, a déménagé vers Paris, et c'est à coquiner ou jumelé avec Wine Paris. Et je pense qu'ils
associé.
Vont... Associé.
Et je pense c'est une très bonne chose. Enfin, un peu de cohérence.
Enfin, un peu de cohérence, et je pense qu'il y aura une seule marque l'année prochaine.
Ils vont fusionner.
Oui. Ils vont fusionner, parce qu'une double marque, c'était un peu compliqué. Mais il y avait trois salons à la porte verte. Versailles, trois bâtiments différents, mais qui se connectaient sans problème. Donc, une seule entrée nous permettait, professionnels des vins, à visiter les trois. Alors, il faut situer quand même le tableau. Aujourd'hui, les salons réellement internationaux, c'est-à-dire avec des vins de partout et destinés à des acheteurs ou d'autres professionnels de partout, ne sont pas si nombreux que ça. Le géant du secteur aujourd'hui, c'est Provine.
Salon. Qui est plus important que celui de Paris ?
C'est deux fois plus de visiteurs.
Oui, c'est quand même énorme.
C'est 60 000 visiteurs, alors que Wine Paris plus Vinexpo ont fait 31 000 visiteurs cette année. Hein, un peu moins de 30 000.
C'est une première.
C'est une première. Enfin, c'est la deuxième pour Wine Paris et la première pour les deux jumelés. Donc, il faut les laisser le temps de s'installer. Il ne faut pas oublier que Provine existe depuis 25 ans. Hein. À Düsseldorf. Alors, c'est vrai que Paris a quand même, je pense, c'est un peu plus sexy que Düsseldorf comme ville pour le visiteur. Mais ce salon, il faut du temps pour s'installer. Moi, je pense que les gens vont envoyer, je pense aux acheteurs qui viennent de très loin, vont chercher à voyager de moins en moins. Et je pense que les salons vont s'éclater. Il y aura des salons dans les grands continents, un salon nord-américain, un salon asiatique, c'est déjà acté depuis très longtemps. Vinexpo fait une version à Hong Kong, une version à Shanghai, a fait une version au Japon, à Tokyo. Je pense qu'il y aura ça de plus en plus. Et pas des très grands raouts où tout le monde est rassemblé dans un même endroit,
côté,
parce
David,
que c'est compliqué.
Alors c'est compliqué, mais on a toute l'offre mondiale rassemblée pendant 3 jours ou 4 jours alors, sur le même lieu. C'est quand
oui,
même
mais
très avantageux,
n'est pas,
non ?
Ce n'est pas toute l'offre. Il faut quand même pondérer un peu la chose. Cette fois-ci, Vinexpo et Wine Paris, je n'ai pas vu un seul Australien, un seul Néo-Z, très peu de Sudaf, très peu de Chiliens ou pas de Chiliens du tout, pas d'Argentins.
En acheteur ou en exposant ?
En exposant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un salon réellement international.
Contrairement à Provine peut-être.
Contrairement à Provine où il y a quelque chose comme 3200 exposants. Hein, donc c'est énorme. Et là, alors, ça vient de partout.
Quand on va en Allemagne, pourquoi venir à Paris après ? Parce que si on retrouve les mêmes ?
Bah justement, c'est ça la question et je pense que ces deux salons sont peut-être trop proches en date. Hein. Sur le plan du marketing des salons, je pense que c'est une erreur de les situer à un mois d'intervalle comme ils l'ont fait. Provence, c'est entre le 12 et le 17 mars de mémoire, c'est vers ces dates-là.
Il y en a un des deux qui va mourir, David. Hein, parce que...
Alors, il y en a soit l'un des deux qui va écraser l'autre, soit il y aura une spécialisation. Et peut-être une spécialisation, disons que c'est le salon des vins européens, tandis que Provine va rester le salon des vins du monde entier. Je ne vois pas comment on peut coexister avec deux salons d'envergure énorme, totalement internationale pour tous les acheteurs. Il y avait un autre salon autrefois qui était le London Wine Trade Fair. Ça, c'est complètement cuit aujourd'hui. C'est un salon qui fonctionne uniquement pour le marché britannique et avec le Brexit, on peut dire qu'il est cuit et même archi-cuit. Les autres salons sont intéressants parce qu'ils sont ciblés. Je cite bio, comment ça s'appelle le salon des vins bio ?
Millésime bio.
Millésime bio, oui.
Donc ça c'est un segment du marché, donc ça intéresse les gens qui s'intéressent à ça.
Parce qu'il n'y avait pas de bio à Vinexpo.
Si, peut y avoir de tout. C'est-à-dire que c'est un salon œcuménique. Tout le monde est accepté, tandis que les gens bio sont plutôt sectaires. Hein, ils veulent pas des non bio. Il y a aussi des salons de régions spécialisées, le salon des vins de Loire. Donc, quelqu'un qui veut un vin de Loire, il va à ce salon-là parce qu'il a toute
l'offre
de
Loire. Pléthorique.
Ou Vitiloire, d'ailleurs, qui est un joli salon à Tours aussi.
Ou Vitiloire. Donc, il y a des choses. Je pense qu'il y aura de plus en plus de salons plutôt spécialisés.
D'accord.
Et un ou deux très grands salons, mais il faut quand même qu'ils ciblent un peu mieux sur le plan à la fois des dates et peut-être sur le plan des choix de lieux. Alors Paris, je pense que c'est très bien, c'est mieux que Bordeaux. Je pense que Bordeaux s'est auto-suicidé en générant toute une série d'événements ancillaires, satellites, qui ont bouffé un peu la clientèle. Tous les châteaux voulaient attirer les gens, donc ils ont fait des opérations off. Je pense que ça, c'est un peu la manière de tuer le...
Philippe Aubrac.
Non, je voulais qu'il nous explique l'auto-suicide, parce que déjà, un suicide, c'est un peu...
Oui, pardon. C'est un syllogisme, non ? C'est ça qu'on dit ? Un pléonasme.
C'est acharné contre lui-même.
Non mais merci de me corriger, Philippe.
Non, mais y a aucun problème.
Vous avez bien le droit.
Et Pogen
on
également.
Vous en prie. Ouais.
Oui. Alors après, du point de vue de l'exposant, il faut quand même considérer différentes questions avant de choisir dans quel salon on se met. D'abord, quel marché on combien d'argent on dispose, parce qu'il y a un budget, hein, ça coûte cher quand même. Alors, soit on se groupe, donc il y a différentes solutions. J'ai vu énormément de salons, de stands, où il y avait des gens groupés à plusieurs qui s'entendent bien ou qui étaient de la même région ou pas de la même région, peu importe. Ça permet de partager le coût et je trouvais que c'était plutôt réussi. Et ça permet aussi aux visiteurs de découvrir parfois en allant juste à 2 mètres, découvrir 20
oui,
mètres. Donc le budget, les marchés visés et la qualité des visiteurs, c'est très important.
Merci beaucoup David Invino, Sud Radio. On retrouve maintenant Pierre Guigui, fondateur et directeur du concours international des vins biologiques et en conversion pour nous parler des vins nature qui manquent de reconnaissance. C'est quoi, c'est le Calimero du vin?
Oui, c'est un peu le Calimero du vin, le vin nature. Et ça tombe bien, parce que ça prolonge la discussion qu'on a sur la transparence, qu'on a eu sur la transparence il y a quelques minutes. C'est vrai que ça pose un gros problème, la transparence. On ne sait pas vraiment ce que c'est un vin nature.
Ça pose un problème, il ne faut pas être transparent, vous voulez dire.
Ah, faut pas, oui. et c'est vrai qu'aujourd'hui, les définitions des vins nature, elle n'est pas très claire.
Bah d'ailleurs, c'est quoi? On va la rappeler, tiens.
Alors, aujourd'hui, il y a un syndicat qui s'est mis en place et qui a défini le vin nature comme étant un vin vendangé à la main, un vin bio, un vin qui suit la charte de Nature et Progrès, donc c'est une bio qui n'est pas reconnue par le ministère de l'Agriculture, donc soit bio, soit Nature et Progrès, vendangé à la main, levure indigène, aucun intrant ajouté, pas de manipulation, pas d'osmose, pas de filtration, pas de flash pasteurisation. Et soit zéro soufre, soit 30 mg de soufre. Donc si c'est zéro soufre, il y aura une petite pastille qui est proposée avec marqué vin
fait super bio, super nature.
Et s'il y a 30 mg, il y aura un deuxième petit logo qui sera présenté. Tout ça, c'est très bien parce que ça définit en creux ce qui n'est pas nature. C'est très intéressant.
Oui, le problème. À l'inverse, quoi.
Eh oui, à l'inverse. Oui. Juste un petit rappel. On a toujours, tout le monde a vu à un moment ou un autre une affiche avec marqué si on est en conventionnel, il y a 700 intrants possibles, si on est en bio, il y en a 70, en biodynamie, il y en a 30, et quand on est en nature, il y en a zéro. Il faut savoir que du temps où il y avait l'association qui s'appelait AVN, Association des Vins Naturels, ils étaient que 30.
30 vignerons, vous voulez dire.
30 vignerons qui adhéraient à cette charte. La charte qui s'appelle des vins qui sont sains, sans aucun intrant, ils étaient 12. Ce syndicat-là qui vient de se créer, ils sont à peine une centaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit autour de tous ces mouvements-là.
Mais ils ne représentent pas grand-chose.
Ceux qui sont réellement adhérents à une charte et qui s'engagent à respecter cette charte, on va dire qu'ils sont 120 en France aujourd'hui. C'est très bien. Au moins, il y a ce mouvement-là qui pose des questions. Mais ce qui pêche, c'est ensuite le contrôle. Quel est le contrôle?
On a bien l'autosuicide, l'autocontrôle.
L'autocontrôle, exactement, c'est l'autocontrôle. On a dit tout à l'heure, par exemple, les levures, c'est un produit naturel. Que vous preniez des levures qui sont exogènes, c'est-à-dire que vous avez acheté dans le commerce, ou vous utilisez les levures qui sont sur le raisin, ce sont toujours des levures. Et donc, c'est impossible à détecter, sauf avec des analyses peut-être éventuellement très très poussées. Donc, ce que propose le syndicat, c'est un autocontrôle, à savoir juste présenter l'analyse classique qu'on a pour un agrément.
Et déclarer qu'on n'a pas acheté de levure. C'est-à-dire que c'est sur la foi du vigneron.
Et donc le reste est déclaratif. Donc ça manque un peu de sérieux à mon avis, parce que, encore une fois, ça va laisser la porte ouverte à plein de pratiques différentes, et le consommateur ne va pas savoir exactement ce qui se passe. Un contrôle extérieur pouvait se faire par exemple par des organismes...
Un labo.
Oui. Et ça permettait d'avoir une meilleure traçabilité de ce qui est réellement dans la bouteille. Donc ça pose un réel problème parce que ce sont des vins qui sont très intéressants sur le questionnement de qu'est-ce qu'on met dans un vin. Ça permet de faire évoluer les mentalités, de se dire bah, peut-être que trop de soufre, c'est pas bon, etc. Mais ça ne donne pas de garantie du tout aujourd'hui, que ce soit pour les vins sains, l'association qui existe encore, ou que ce soit le nouveau syndicat qui est en train de se créer.
Bon, petit commentaire sur les propos de Pierre, c'est un état des lieux intéressant.
Ben, je suis d'accord avec Pierre, il n'y a absolument pas de contrôle, sauf la déclarative du vigneron. C'est-à-dire qu'on est obligé de le croire ou on le suspecte de tricher. Après, moi j'ai aussi le même problème fondamental sur cette séparation que je trouve assez artificielle entre levure dite indigène et levure sélectionnée.
Une levure, c'est une levure.
Parce que oui, toutes les levures sont naturelles à l'origine. Après, quelqu'un qui est très fier de ses levures, pour être sûr que ces levures soient présentes en permanence, notamment quand il refait son chai. Quand on refait son chai, on n'a plus de population de levures sur les murs et sur les bidons et dans les tuyaux. Si on a changé le matériel, il faut recommencer. Donc on va prélever des souches de levures qu'on va faire reproduire en laboratoire. Donc ce sont des levures qui deviennent, par leur définition à eux, exogènes. Donc je trouve que cette séparation est très artificielle et d'ailleurs ne mène à rien.
Bon, merci, on aura l'occasion d'en reparler abondamment. Merci en tout cas à Pierre Guigui, merci également à vous David Cobol, Philippe Forbach, Fabien Imbert et Hélène Piau. Merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Sylvie et Courcelles, copropriétaire du château Thiollet. Nous parlerons de la clairette de Bellegarde et des principes de la biodynamie. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.